Bonsoir tout le monde. La semaine dernière, on avait commencé à voir une forme d'aliénation, c'était celle qui arrive par la matière ouvrée. Donc le fait que nécessairement, dès le moment où on inscrit son action dans quelque chose de, dans un tissu social ou dans la réalité matérielle, dès ce moment-là, en fait, d'une certaine manière, on perd son action, le sens est changé, d'autres s'en emparent, en font autre chose. Et donc, c'est une aliénation qui est absolument incontournable. Il faut juste l'accepter. On avait aussi donc commencé à observer les relations interpersonnelles. On avait vu qu'il y avait une certaine ambiguïté dans la relation ontologique, donc vraiment ce qui est le fond de l'humain, ce qu'il est capable de faire par rapport aux autres, et que il y avait à la fois un côté de reconnaissance immédiate et de communication garantie immédiatement, mais en même temps aussi un côté négatif qui venait par la rareté, par la pression de la rareté, qui faisait que, qui installait une méfiance vis-à-vis de tous les autres comme concurrents potentiels, une méfiance pouvant aller jusqu'au rejet, voire à la violence. Donc ça, c'était un début de compréhension des relations humaines. Donc, Sartre essaye toujours, je vous le rappelle, de ramener ça à une compréhension dialectique et donc toujours par contradiction, dépassement. Chaque action qui essaye de réagir à l'action de quelqu'un d'autre ou à quelque chose de matériel qui se présente, chaque action est donc dépassement et en ce sens, elle est dialectique à condition qu'elle soit créatrice hein, et qu'elle crée quelque chose de nouveau par rapport au terme qui juste là était en présence et en conflit. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment les êtres humains se réunissent en différents types de rassemblements. Et donc, qu'est-ce qui caractérise différents types de rassemblements ? Depuis celui qui est le plus proche de l'action individuelle jusqu'à celui qui en est le plus éloigné et donc le plus aliénant. Et on terminera à la séance prochaine avec l'étude carrément des captations du pouvoir dans une véritable domination. Ça, on y arrivera à la séance prochaine. Et donc, le premier texte, on va tout de suite lire le premier texte, qui concerne la distinction entre le groupe et le collectif. Alors, ces termes-là ne sont pas pris dans leur usage courant, dans une signification courante qui est assez vague, assez floue, qui dépend un peu de chaque locuteur. Là, c'est pris dans, ça va, vous allez voir, c'est une définition très précise qui va en donner des sens techniques, hein, des sens qui sont proprement sartriens et qu'on utilisera alors tout le temps. Je le lis. Le groupe se définit par son entreprise. Son entreprise, c'est-à-dire bon, son action libre, volontaire, vivante. C'est une praxis vivante, le groupe. Et par ce mouvement constant d'intégration qui vise à en faire une praxis pure en tentant de supprimer en lui toutes les formes de l'inertie. Donc, vous vous souvenez bien, le grand antagonisme, c'est entre praxis, donc action en cours, et inertie, fixation, arrêt, durcissement. Et donc, le groupe, il se définit justement comme ce qui essaye de n'avoir que de l'action, hein, une praxis pure, et le minimum d'inertie, aussi bien l'inertie qui vient de la matière que l'inertie qui vient de certaines relations d'aliénation, hein, certaines relations aliénées. Le collectif, au contraire, donc en opposition, se définit par son être, c'est-à-dire en tant que toute praxis se constitue par lui comme simple exis. Donc il se définit par son être. Vous voyez ici, l'être s'oppose à l'entreprise, l'être s'oppose à l'action en train de se faire. Chez Sartre, presque toujours quand il parle d'être, c'est l'être en soi. Hein, c'est l'être figé dans quelque chose qui ne bouge pas. Donc il se définit plutôt comme quelque chose de stable qui ne bouge pas. En tant que donc toute praxis, toute action se constitue par lui comme simple exis. Alors l'exis, c'est aussi un terme qui revient souvent chez Sartre. Bon, il l'emprunte au grec. Et en grec, ça signifie un état qui a été acquis et qui désormais fait partie d'une personne ou d'une chose. Donc c'est quelque chose d'acquis, ça, c'est issu du verbe avoir en fait. C'est quelque chose qu'on a et qu'on a de manière stable. Donc c'est ça ici aussi. Cette praxis se constitue comme une simple exis, donc comme un état acquis et qui ne bouge plus. C'est un objet, on parle toujours du collectif, hein. C'est un objet matériel et inorganique du champ pratico-inerte. C'est un objet matériel et inorganique, donc ça veut dire que le collectif lui-même, ça n'est pas juste la collection des individus. C'est un objet matériel, c'est-à-dire c'est tout ce qui a été institué et qui s'est établi, qui s'est solidifié dans le champ pratico-inerte, donc en gros dans le champ naturel et social. En tant qu'une multiplicité discrète d'individus agissants, se produit en lui, donc à l'intérieur donc, de cet ensemble matériel qu'on appelle le collectif, donc il y a un ensemble de relations, hein, on peut dire un ensemble de relations sociales, se produit une multiplicité discrète. Alors discrète, ça veut dire tous les individus sont séparés les uns des autres. C'est l'opposé du continu, hein, le discret. Donc ce sont des individus séparés les uns des autres. Ils sont agissants, bien sûr, chacun de son côté. Sous le signe de l'autre, avec un grand A. Donc, l'autre avec un grand A, ça veut dire l'autre indéterminé, qui peut être n'importe quel autre, à la fois l'altérité des humains et l'altérité aussi de ce qui n'est pas humain, hein, de tout ce qui peut faire obstacle, comme n'importe quelle matière ou vivant. Donc, cette multiplicité discrète d'individus se produit sous le signe de l'autre comme unité réelle dans l'être. Donc, on va voir pourquoi l'autre, hein, on va le voir amplement, en fait, on va voir développer aujourd'hui toute cette notion d'altérité. Donc, n'ayez crainte, on y revient. Comme unité réelle dans l'être, une unité réelle dans l'être, c'est le contraire d'une unité qui est intérieure, vécue, créée par l'individu lui-même. Là, c'est une unité qui est extérieure à l'individu, qui est justement dans cet ensemble figé de relations et d'institutions sociales. C'est-à-dire, comme synthèse passive, donc subie, les individus là subissent l'unification que leur donne la société, qu'ils trouvent là où ils sont, comme synthèse passive, et en tant que l'objet constitué se pose comme essentiel, alors que les individus deviennent l'inessentiel. Donc la structure sociale, le durcissement, l'institution devient l'essentiel, le plus important. Ça devient ça, l'important, c'est l'institution, c'est plus les individus qui sont dedans. Donc on voit, hein, où est la priorité, donc c'est plus dans les individus. Et que son inertie pénètre chaque praxis individuelle comme sa détermination fondamentale par l'unité passive. Donc chaque individu est pénétré en fait de cet ensemble qui est institué, parce qu'il est obligé de régler ses conduites, hein, sur ce qui a été institué avant lui. Il est guidé par tout ce qui a déjà été constitué. C'est-à-dire par l'interpénétration préalable et donnée de tous en tant qu'autres. Donc ça veut dire que tous ceux qui sont de cette manière déterminés socialement le sont tous en tant qu'autres, c'est-à-dire ça s'oppose à en tant qu'eux-mêmes, en tant que ce qu'ils sont personnellement et individuellement. Donc en tant qu'autres, ça veut dire tout est dicté par les autres ou par certains autres, par l'altérité en général. Donc on voit, hein, c'est effectivement là la clé de la constitution du collectif, c'est bien l'altérité. Et donc, vous pouvez penser, pour vous donner pour une représentation familière de ce genre de collectif, bah, l'homogénéisation, hein, de n'importe qui dans une foule, dans une administration, dans un milieu scolaire, dans un milieu de travail. Bon, c'est la praxis individuelle, certes, elle continue à s'exercer, les gens agissent, mais toujours canalisé, codifié par ce qui a été institué avant eux. Alors, le collectif, il est aussi caractérisé par une unité que Sartre appelle sérielle. Sérielle, donc de série, et il parlera constamment de la sérialité. Et pour l'illustrer, il prend l'exemple, on voit un exemple très familier, d'une file d'attente à un arrêt d'autobus. Donc, chacun est là, pour une raison qui lui est propre, il va quelque part, il va réaliser une action par cet autobus, mais en tant qu'il attend là à l'autobus, il a un but qui est le même que tous les autres. Tous les autres qui sont là ont le même but proche, le plus immédiat, qui est prendre cet autobus. Donc, en fait, ils ont d'une certaine manière un but commun, mais chacun séparément, chacun isolé des autres et chacun ignorant par ailleurs tout ce qui se passe pour les autres. Et si, quand l'autobus arrive, il n'y a pas assez de place pour tout le monde, il va y avoir, non, on n'est pas à Marseille, il ne va pas y avoir une bousculade et tout le monde qui bouscule. Non, il va pas y avoir ça. Il va y avoir dit Sartre que les premiers arrivés seront les premiers servis, hein, donc pourront entrer dans le bus. Les autres devront attendre le suivant. Donc en fait, chaque individu est aussi ordonné en fonction d'un critère qui ne lui est pas du tout personnel. Je veux dire, ça ne fait pas du tout partie de ses qualités d'être au bon endroit dans la série. C'est juste un critère qui est donné par le dispositif. Hein, le dispositif installé, c'est là, le poteau est ici, le premier arrivé sera le premier entré. Etc. Et vous pouvez penser à la même chose partout où on prend un ticket pour déterminer l'ordre de passage quelque part. Donc tout ça, c'est du sériel. Et donc les relations des individus entre eux là, ce sont des relations d'indifférence. En fait, ils ont parfaitement conscience des autres qui sont là. Il est possible que s'il se passe quelque chose, ils se mettent à se parler ou à faire avoir des actions réciproques, mais en principe, ils sont indifférents les uns vis-à-vis des autres.
Ça, c'est un collectif.
C'est un collectif, c'est exactement ce qu'il appelle un collectif. Donc, c'est effectivement pas le sens courant. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pas le sens courant du collectif, parce qu'actuellement, on parle souvent de collectif, justement, pour des groupes organisés. Mais il y a un contraste très fort chez Sartre entre les deux. Donc, le collectif, il est sériel. C'est l'individu, disons, qui est dont la praxis est conditionnée par la disposition sociale et par les autres en tant que tous les autres font la même chose. Hein, donc, il fait la même chose que tout le monde parce que tout le monde fait la même chose. Et tout le monde fait la même chose parce que c'est dicté par le dispositif. On peut généraliser ça donc à une multiplicité de cas, de situations dans une société. Et cette sérialité, on va lire le deuxième texte qui la précise. Cette sérialité, chaque individu la réalise pour soi. Donc, ça veut dire que, en fonction de ses propres fins, hein, pour ses propres fins, il réalise la sérialité parce qu'il se conduit de manière sérielle pour réaliser ses propres fins. Et il la confirme pour les autres à travers sa propre praxis individuelle. Il la confirme puisque, en faisant ce que tout le monde fait, il encourage aussi tout le monde à faire ce que tout le monde fait. Hein? Chacun qui fait ce que tout le monde fait le reconfirme pour les autres et le mimétisme n'arrête pas d'aller de l'un à l'autre et d'entraîner tout le monde. Et ses propres fins. Cela signifie non pas qu'il contribue à créer un groupe actif en déterminant librement le but, les moyens, la différenciation des tâches, avec d'autres individus. Donc voilà déjà une redéfinition de nouveau du groupe. Hein, le groupe, c'est ça qui fait, et c'est tout à fait différent. Le groupe actif, c'est lui qui détermine librement, donc par une véritable action qui repose sur la liberté des individus, le but, les moyens et la distribution des tâches entre eux. Donc on ne fait pas du tout ça dans le cas du sériel, mais il actualise son être hors de lui comme réalité commune à plusieurs. Son être hors de lui, hein, encore une expression typiquement sartrienne, mais pour dire, en fait, son objectivation à l'extérieur, ce qu'il fait à l'extérieur. L'inscription de son action dans le tissu social, dans la matière. C'est ça, son être hors de lui, son extériorisation. Donc, il actualise, il effectue son extériorisation comme une réalité commune à plusieurs. Donc, il est commun à plusieurs dans tout ce type d'activité. Et qui l'attend par une pratique inerte, codifiée, contraignante, dénotée par l'instrumentalité. Alors ça, c'est une petite observation en plus. C'est toujours dans des dispositifs instrumentaux. Pourquoi les individus s'inscrivent dans ce genre de séries et de collectifs temporairement, hein, ils sont pas tout le temps là-dedans, mais pourquoi ils s'inscrivent là? C'est en général parce que ils en ont besoin. C'est parce que ce sont des moyens pour arriver à leur fin. Hein, ce sont des instruments que la société met à leur disposition. Donc de toute façon, ça les arrange bien. Hein, c'est pas quelque chose qu'il faut supprimer. Donc c'est dénoté par l'instrumentalité, dont le sens est de l'intégrer à une multiplicité ordonnée en lui assignant une place dans une sérialité préfabriquée. Voilà, il a une place ordonnée. Et cette sérialité, qui est définie par une sorte de convention sociale, ne dépend pas de ce qu'il est intrinsèquement. Mais en plus, il peut y avoir une intériorisation de cette altération, altérité subie. Une intériorisation, alors, comme vous voyez dans le paragraphe suivant, il y a des conduites sérielles, il y a des sentiments et des pensées sérielles. Autrement dit, la série est un mode d'être des individus, les uns par rapport aux autres et par rapport à l'être commun, et ce mode d'être les métamorphose dans toute leur structure. Donc on peut être véritablement, même intérieurement, modifié, métamorphosé par ces structures sociales. On peut devenir un individu qui est pratiquement que collectif, oui, qui est pratiquement que sériel, qui n'a pratiquement pas d'autres relations que celle-là. Hein, c'est une tendance, effectivement, du social. En ce sens, il y a lieu de distinguer la praxis sérielle comme praxis de l'individu en tant qu'il est membre de la série et comme praxis de la série totale ou totalisée à travers les individus. Donc ça, c'est la praxis sérielle d'un côté. Il faut la distinguer de la praxis commune, l'action de groupe dont on va parler juste après, et de la praxis constituante individuelle. Le mot constituante est important parce que la praxis individuelle, c'est toujours celle qui est le support de toutes les autres. C'est celle qui constitue toutes les autres. La praxis de groupe et de collectif n'est pas réductible à l'individuel. On ne peut pas dire que ce que fait un collectif, c'est juste la somme de ce que font les individus. Ce n'est pas vrai du tout, hein, puisqu'il y a cette imprégnation justement de l'institué sur les individus. Mais il n'empêche que, in fine, au final, c'est toujours l'individu qui agit. Concrètement. Et c'est toujours par lui que ça passe. C'est toujours par lui que passent les injonctions, les codes, les obligations, les institutions, donc tout le social. Et inversement, on découvrira dans toute praxis non sérielle, donc d'individu ou de groupe, une praxis sérielle comme structure pratico-inerte de cette praxis en tant qu'elle est sociale. Donc tout ce qui, de toute façon, est dans une société, de toute façon, possède en soi quelque chose du collectif et du sériel de cette société. Même sous forme de négation, même sous forme de toute une histoire où on a dû être formé par ça avant de se former autrement, tout simplement. Donc ça restera toujours. Un autre exemple que donne Sartre de structure, disons, dictée par les autres, sérielle et dictée par les autres, c'est la fixation des prix. Dans une économie de marché, la fixation des prix selon la loi de l'offre et de la demande. Et il dit ceux qui doivent fixer leurs prix, donc aussi bien le détaillant que éventuellement le marchand de gros, hein, mais qui doivent fixer des prix, en fait, ils doivent toujours trouver un équilibre en fonction des autres. Un équilibre entre un prix trop élevé qui va faire qu'il n'aura pas assez d'acheteurs et un prix trop bas qui va faire qu'il n'aura pas assez de profit. Plus d'acheteurs, mais moins de profits. Donc, il va trouver l'équilibre, et cet équilibre, il va toujours le trouver en rapport avec les autres, c'est-à-dire en supposant ou en vérifiant ce que font d'abord ses concurrents. Il ne peut pas être trop différent de ses concurrents, ou alors il peut être différent en fonction d'une clientèle qui lui est propre. Donc, c'est aussi en fonction des autres, au sens de ses clients. Donc, c'est à lui de juger jusque où ses clients peuvent payer ou ne paieront plus pour ce produit. Et donc, c'est de nouveau une structure sérielle. On ne se met pas du tout ensemble pour convenir. C'est ça l'opposition. On ne se met pas ensemble pour convenir de quel serait le bon prix. Mais chacun utilise ce qu'il suppose ou ce qu'il observe chez les autres pour fixer le sien. Donc, c'est vraiment en altérité. C'est une fixation en altérité. Et l'unité sérielle, donc l'unité, il y a quand même une unité, tous ces individus qui sont dans une série ou qui sont une collection, ils ont quand même une unité. L'unité sérielle, elle peut être faite ou bien en présence, ces individus étant présents les uns avec les autres, comme dans l'autobus, hein, comme je disais, ou bien en absence. Et s'ils sont en présence, il y a une possibilité immédiate là de passer à autre chose. C'est-à-dire, s'il y a un événement particulier qui se passe, on peut passer à un groupe. Par exemple, supposons que une file d'attente devant un magasin se révèle décevante parce que il y a la rareté, il n'y a plus de produits, ça peut déclencher une émeute. Et l'émeute, là, c'est un autre type de rassemblement qu'on va voir juste après, ça c'est un groupe. En revanche, en absence, si les individus sont séparés, mais vraiment géographiquement, sont chacun chez eux, s'ils sont en absence les uns par rapport aux autres, on n'a pas cette disponibilité, cette possibilité de passer à autre chose. Donc c'est bien pire. Hein, comme altérité, c'est bien pire. Et il prend l'exemple, pour cette altérité en absence, il prend l'exemple des masses médias. Ici, toute une critique des médias qui est vraiment très, très pertinente. En fait, il dit que il a même pas besoin d'insister sur le fait que les masses médias, bon, c'est un discours qui est unidirectionnel, hein, il vient d'un seul côté vers un seul côté et il n'y a pas de réciproque. Et puis, c'est un discours aussi qui, pour lui, à l'évidence, est un discours de propagande. Il n'essaye même pas trop de le justifier, ça lui paraît assez évident. C'est un discours de propagande. Alors lui, à cette époque, bon, on est dans les années 50, les médias sont plutôt de l'État ou proches de l'État, donc sa propagande, pour lui, c'est plutôt du gouvernement jusque-là. On peut évidemment, à l'heure actuelle, ajouter la propagande commerciale, hein, etc. Mais bon, pour lui, c'est évident. Et il dit que si on veut refuser ce discours univoque et qui essaye donc d'influencer par la propagande, on peut le faire à titre individuel. C'est-à-dire individuellement, on peut se dire « je n'écoute pas la radio, je ne regarde pas la télé, je ne lis pas les journaux, en tout cas, ou alors je les choisis. » On peut résister à titre individuel, mais il dit « mais ça ne change rien. » C'est-à-dire « ça n'empêchera pas ce discours de se déverser sur les autres, et ça n'empêchera pas les autres d'être convaincus et de rejoindre éventuellement ce vers quoi on voulait nous mener. » Donc je suis dans l'impuissance, en fait. Là, je constate mon impuissance, ma sérialité comme impuissance, qui est quelque chose de très important. Et on va lire le troisième texte qui décrit comment se font de multiples relations d'altérité. Vous allez voir, il y en a vraiment de multiples. Donc, le troisième texte, « Ainsi en elle ». Alors, le « elle », c'est la voix. Hein, c'est la voix qui vient de la radio, mais vous pouvez dire aussi qui vient du journal ou de la télé, peu importe. Hein. Donc, « Ainsi en elle et par elle, les autres ». Alors, il prend d'abord les autres comme les partisans de cette politique, donc ceux qui sont d'accord avec le message diffusé. « Influence les autres qui sont cette fois les hésitants, les neutres ». Mais cette influence est elle-même sérielle. Alors, parenthèse, ce qui n'est pas sériel, bien entendu, c'est l'action politique du gouvernement et ses activités de propagande. Autrement dit, là, il y a une action concertée. L'action du gouvernement n'est pas sérielle. C'est une action qui est réfléchie, qui a un but commun. Hein, donc là, les individus qui décident de faire une certaine émission et pas une autre, ils sont un groupe, hein, ils ne sont pas une série. Ils se concertent entre eux, ils travaillent ensemble. Dans un but commun. Donc ça, ce n'est pas sériel. Mais, en revanche, l'influence qui arrive par la voix du média, elle est sérielle, puisque chacun écoute à la place de l'autre et en tant qu'autre, et puisque la voix elle-même est autre. Donc on va voir pourquoi hein, chacun écoute à la place de l'autre, c'est ce qu'il explique dans la suite. La voix elle-même est autre. Elle est autre pour ceux qui refusent la politique qui l'inspire. Évidemment, elle est autre pour ceux qui sont les opposants, hein, qui sont les résistants, qui ne sont pas d'accord. En tant qu'expression de certains autres et qu'action sur d'autres. Donc, elle est autre que l'opposant. En tant que cette voix est l'expression des autres, à savoir les propagandistes, et action sur encore d'autres, qui sont d'autres auditeurs qu'on suppose être plus malléables, plus hésitants. Elle est autre, la voix, pour les hésitants, qui la reçoivent déjà en tant qu'opinion des autres, de ces autres tout-puissants qui tiennent les masses médias. Donc, la voix est autre pour les hésitants, qui la perçoivent comme une voix venant d'une puissance, qui tient ceux qui tiennent les masses médias, et qui sont déjà influencés par le seul fait que cette politique a le pouvoir de faire publiquement son apologie. Donc, quelque chose de très pervers, là, qui est que, en fait, les hésitants, ils risquent de se laisser gagner à ce courant, à ce bord politique, simplement parce qu'ils constatent à quel point il est puissant. Le fait hein, d'être attiré par le vainqueur plutôt que par le vaincu, autrement dit. C'est quelque chose d'assez réel, me semble-t-il. Pardon ? C'est à partir de 56, entre oui, 56, 57, 58 qu'il écrit. Non, c'est plutôt 58. Oui, 56, c'était seulement question de méthode. Oui, 58 déjà. Hein. Donc, je reprends cette dernière phrase. « Cette voix est autre pour les hésitants, qui la reçoivent déjà en tant qu'opinion des autres, de ces autres tout-puissants qui tiennent les masses médias, et qui sont déjà influencés par le seul fait que cette politique a le pouvoir de faire publiquement son apologie. Autre enfin, donc la voix est autre enfin, pour ceux qui soutiennent la politique du gouvernement, donc ceux-là, en principe, sont d'accord avec ce message, mais la voix est quand même autre, en ceci que pour chacun, dans la solitude, elle est cautionnée par l'approbation des autres. » Donc, vous voyez de nouveau, d'ici, le même type d'effet. C'est-à-dire, pourquoi ils sont d'accord avec cette voix et avec le gouvernement? C'est de nouveau parce qu'ils ne sont pas seuls à être d'accord. C'est parce qu'ils savent qu'il y en a d'autres qui sont aussi d'accord avec cette opinion et qui forment une certaine puissance. Donc, elle est cautionnée, cette voix. Ceux qui sont de son avis. Et par l'action qu'elle exerce sur les hésitants. Donc là aussi, ils sont confortés. Ceux qui sont d'accord avec le message sont aussi confortés dans cet accord par le fait qu'il est en train d'agir sur les hésitants. Donc, plus il y a de ralliement, plus il y a de ralliement, plus ça conforte l'opinion que quelqu'un avait au départ. Pour ceux-là, c'est leur propre pensée que la voix exprime, mais c'est leur pensée en tant qu'autre, c'est-à-dire en tant qu'elle est énoncée par un autre, formulée en des termes autres, mieux qu'ils n'eussent fait et autrement, et en tant qu'elle existe au même instant pour tous les autres, comme pensée autre. Toutes les conduites réactives que la pensée autre, comme signification de la voix autre, suscite chez tous les auditeurs, sont toujours des conduites d'altérité. Cette fois, on l'a vu. Hein. Je n'ai pas compté le nombre de fois qu'apparaît le mot autre, mais on voit bien que c'est de ça qu'il s'agit. Par là, il faut entendre que ces conduites n'ont ni la structure immédiate de la praxis individuelle, ni les structures concertées de la praxis commune et organisée. Hein, c'est clair. Et il me semble que cette critique de la propagande médiatique, elle est particulièrement pertinente. Elle ajoute des choses plus intéressantes que celles qui existaient déjà bien avant ces années. Critique de la propagande qui visait surtout les mécanismes inconscients qu'on utilisait, par exemple, pour la publicité, ou les conditionnements qu'on essayait d'installer chez les gens, hein, conditionnements pour qu'ils fassent mécaniquement certaines actions. En fait, ces explications-là de la propagande ou de la publicité, au fond, considéraient les humains plus comme des choses ou des organismes simplement vivants, hein, donc en essayant d'agir sur des réflexes, des mécaniques ou éventuellement des désirs assez primaires. Alors qu'ici, la critique que fait Sartre, c'est que les médias, en fait, sont efficaces dans leur propagande parce qu'ils utilisent quelque chose de spécifiquement humain, qui est justement la relation d'altérité. Ils utilisent, en fait, le dépassement qui est le propre de chaque individu par rapport aux autres. Le fait que chaque individu tient compte de ce que font les autres, être attentif et renforcé ou au contraire rejeté par ce que font les autres. Et ça, c'est typiquement humain. Et donc, expliquer la puissance des médias par ça me semble particulièrement intéressant. Et on pourrait se demander, pour actualiser cette question de Sartre, on pourrait se demander si les nouveaux médias, les réseaux sociaux, les nouveaux médias changent l'analyse ou pas. Puisque, en principe, ils sont assez différents, dans le sens où ce n'est plus unidirectionnel, mais ça va dans toutes les directions. Tout le monde peut être émetteur et récepteur de messages dans ces réseaux. C'est horizontal, hein, ça n'a plus la verticalité de « il y a ceux qui décident de ce qui va être dit et ceux qui ne peuvent qu'écouter passivement ». Donc, il y a horizontalité, interaction. Est-ce que ça change grand-chose ? Alors ici, évidemment, je vous propose ma propre analyse, puisque Sartre ne l'a pas faite, mais on pourra en débattre. Je pense que ça ne change pas grand-chose, parce que en fait, les individus sont toujours autant déterminés par les autres, si pas plus, dans ce genre d'interaction. On retrouve les mêmes processus de regroupement par attraction de ce qui est déjà le plus puissant ou déjà le plus circulant, le plus diffusé, le plus suivi. On suit ce qui est le plus suivi. D'ailleurs, comme vous savez, les dispositifs informatiques visent précisément à ce qu'on suive le plus suivi. Donc, c'est la même chose. Et les émetteurs de messages sont constamment en train de calculer comment vont réagir les autres à leur message. Leurs buts sont des buts vraiment de sérialiser les autres personnes, d'induire des comportements chez les autres personnes qui seront des comportements strictement individuels, mais dictés par une altérité. Donc en fait, pourquoi ça n'a pas changé la donne ? Eh bien parce qu'on n'a toujours pas atteint là une structure de groupe, on n'a toujours pas une praxis groupée, on a toujours une praxis sérielle, et en fait, chacun peut devenir la même voix que la voix du média, disons, vertical, mais avec tous les mêmes défauts, avec toute la même structure d'influence et d'altérité. On peut éventuellement y revenir, si vous voulez, dans le débat, mais ça me paraît assez un instrument de pensée assez puissant, celui qu'on trouve ici. Alors, néanmoins, il ne faut pas non plus considérer nécessairement la sérialité comme quelque chose d'entièrement négatif. Et je pense à un exemple très positif de ce côtoiement dans l'indifférence, de cet anonymat que permet un rassemblement d'un grand nombre d'humains qui n'ont pas de relation particulière entre eux. La relation d'indifférence. La solitude choisie au milieu de toute une série de gens qui déambulent, qui vaquent à leurs affaires et avec lesquels on n'a pas spécialement envie à ce moment-là d'avoir des relations plus intenses. Donc, revendiquer ce droit à l'indifférence, c'est aussi ce que faisaient à la même époque ceux qui défendaient le droit à la ville. Je fais un rapprochement avec ce droit à la ville qui avait été théorisé, alors notamment par Debord et l'international situationniste, c'était un thème très situationniste, et aussi par l'urbaniste et sociologue Henri Lefebvre, qui a écrit justement un ouvrage qui s'appelle « Le droit à la ville ». Et ce droit à la ville, ça voulait dire que le droit de ne pas être dans des relations sociales où tout le monde connaît tout le monde et où tout le monde sait tout de tout le monde. C'est-à-dire le droit d'avoir une action anonyme, une action qui n'est pas connue des autres, et de choisir les relations qu'on veut plus réciproques et plus intenses par ses propres affinités, sa propre liberté. Donc, ce droit à l'anonymat que donne la ville était revendiqué. Je pense que, oui, il faut voir le bon côté aussi parfois de ce type de collectif. On n'est pas obligé d'être constamment en groupe. Alors, il faut aussi distinguer les séparations dans le collectif sériel. Il faut bien les distinguer de peut-être une expression qui vous vient à l'esprit par ressemblance, qui est l'atomisation des masses. L'atomisation des masses, ce n'est pas la même chose. Bon, on a créé cette expression pour désigner le processus de séparation, d'isolement des individus, par la terreur totalitaire. Donc, dès le moment où un régime installe une telle terreur au plus près de chaque individu, c'est-à-dire partout, dans tous les foyers, dans tous les lieux, alors, l'isolement des individus est absolu parce que la moindre relation avec un autre est un danger. C'est la terreur qui l'installe. Et cette atomisation, c'est ça. C'est la terreur installe le fait que parler à un individu quelconque est un immense danger. Mais c'est vraiment autre chose parce que là, il n'y a même plus de lien social. Il n'y a même plus... ces individus, certes, utilisent encore une matière ouvrée socialement, ils sont encore des rouages dans une société, mais précisément, ils ne sont plus que des rouages. Ils n'y mettent plus leur propre but, ils n'ont plus leur propre but, il n'y a plus que les buts du régime en place qui peuvent être adoptés. Et donc, on est vraiment dans une situation bien pire et il ne faut pas les confondre. Donc, on n'est pas déterminé par les autres à ce moment-là. À ce moment-là, ce n'est pas l'altérité qui dicte les conduites par une sorte de mimétisme ou d'instrumentalisation ou de facilité. À ce moment-là, ce qui dicte les conduites, évidemment, c'est le pouvoir unique, donc une totale verticalité, le pouvoir unique, qui soit incarné dans un groupe ou dans une seule personne. D'ailleurs, Sartre va y revenir parce que dans son deuxième tome, il va justement étudier en détail, mais on ne va pas pouvoir le faire aussi bien en détail, mais l'URSS de cette époque, encore stalinienne, enfin plutôt l'URSS stalinienne qui n'était plus tout à fait de cette époque, mais il va étudier justement cette concentration du pouvoir et l'effet que ça a sur les masses. Bon, il n'est pas le seul, bien sûr, à le faire. Alors, une classe sociale, c'est aussi un collectif. C'est aussi un collectif. Bon, c'est un champ pratico-inerte, hein, donc c'est un champ, un milieu où il y a à la fois des actions et des inerties. Mais c'est aussi un collectif, et le plus souvent, enfin en tout cas le plus souvent, parce que les individus, ils sont sériels. Les individus, en fait, ils s'actualisent là selon leur être de classe, comme dit Sartre, hein, selon leur être de classe, c'est-à-dire ils ont un certain champ des possibles qui est déterminé par leur appartenance à tel ou tel milieu de naissance. Et ils s'actualisent alors librement par rapport à ce champ des possibles, mais ils n'ont pas un autre champ des possibles, évidemment. Ils sont contraints par ce champ des possibles qui est déterminé matériellement par la classe où ils sont nés. Et donc ils sont sériels, chacun vit à sa manière la classe et la société tout entière. Et si on veut que quelque chose se modifie, donc si on veut que la classe passe à quelque chose d'autre, il faudrait qu'elle nie une double négation. Donc pour qu'une classe devienne plutôt un groupe actif, hein, devienne active et non pas simplement une passivité sérielle, il faut qu'elle nie deux négations. La négation qui lui vient de la machine, hein, ça, alors la machine, c'est pas seulement tout le processus de production, ce l'est, mais c'est aussi toutes les relations qui vont avec, les gouvernements qui vont avec, les autorités, les pouvoirs qui vont avec. Hein. C'est tout ça la machine. Donc il faut qu'elle nie cela, cette classe, et il faut qu'elle nie aussi son propre être sériel, donc la sérialité de ses propres membres. Il faut que ses membres dépassent leur séparation. Et donc, alors il y a toute une série de conditions que Sartre envisage assez longuement, toute une série de conditions pour la possibilité de se trouver un but commun. Et donc, c'est encore tout à fait le cas actuellement, hein. Comment est-ce qu'on réunit une classe pas nécessairement prédéterminée qui se constitue dans une opposition? Par exemple, un exemple au hasard, les Gilets jaunes. Ça se constitue alors que ce n'était pas du tout une classe déjà déterminée avant, ça se constitue dans une opposition commune à une certaine machine, hein, à une certaine machine qui est en train de les écraser. Ce sont des gens qui sont tout à fait sérialisés, même hein, ils ont tous des professions, des statuts différents, des conditions économiques différentes, culturelles aussi. Qu'est-ce qui va les unir? Qu'est-ce qui va leur faire dépasser leur sérialité? Ben, ça va être premièrement donc leur négation de la machine qui les écrase. Hein, ils ont un ennemi commun. Ça, c'est la première chose, ils ont un ennemi commun, ou plus ou moins commun, mais ils peuvent le préciser et le rendre de plus en plus commun. Et d'autre part, ils vont nier leur propre isolement en organisant justement des actions extrêmement communes, extrêmement fusionnelles. Et c'est comme ça qu'on va arriver à la deuxième partie du propos de Sartre, qui est de montrer ce que c'est un groupe en fusion. Donc ici, il a surtout parlé il a présenté jusqu'ici le collectif, le sériel, et il en arrive à présenter différents types de groupes, et en particulier le groupe en fusion. Alors qu'est-ce que c'est ce groupe? C'est un groupe qui peut surgir donc comme d'une situation, comme je viens de l'évoquer, une situation où on est un collectif sériel qui se sent écrasé ou menacé par quelque chose de commun. Sartre dit bien, attention, ça peut surgir, mais pas nécessairement. Il n'y a jamais de nécessité d'une transformation d'un type de regroupement à un autre. Donc même celui qui vient de dire un collectif se transformant en groupe organisé ou en groupe en fusion, ou inversement, un groupe qui était organisé devient sériel. Tous les passages, dit-il, sont possibles, et on ne peut pas savoir historiquement lequel a été le premier. Impossible de savoir comment les humains ont commencé à être ensemble. On ne peut pas le savoir. Oui, tous les passages sont possibles, mais tout de même, il dit qu'il y a quand même une logique. Il y a une logique au passage qui est la négation, qui est l'opposition. En fait, parce que pourquoi on change, pourquoi on agit sur les choses pour qu'elles changent, c'est parce qu'il y a un conflit, c'est parce qu'il y a une opposition. Donc ça, il faut quand même toujours l'expliquer par une opposition. Et c'est pour ça que c'est plus simple, c'est plus logique de dire qu'à partir d'un collectif, un groupe se crée par opposition à cette inertie qui opprime chaque individu. Parce qu'il y a une oppression, quoi. Et l'exemple du groupe en fusion, il vient de la Révolution française. Enfin, l'exemple qu'il prend vraiment pour décrire le plus longuement le groupe en fusion, c'est dans la Révolution française qu'il a beaucoup, beaucoup étudié. Il a lu des tas d'auteurs là-dessus. Il est assez passionné par cet événement. Et là, il prend plus particulièrement la prise de la Bastille. La prise de la Bastille, alors je résume très rapidement parce qu'il s'étend beaucoup. Quelle est la situation ? Début juillet 1789, le peuple de Paris souffre du besoin, hein, souffre de la rareté. Il est vraiment dans le besoin, il est vraiment dans la disette. Mais il est encore sériel. Donc chacun souffre de son côté, il n'y a pas encore d'union pour réagir à ça. Qu'est-ce qui va déclencher cette union ? Eh bien, c'est que le roi va masser des troupes entre Versailles et Paris, de crainte justement qu'il se passe une révolte. Et donc, la rumeur venant à certains quartiers de Paris que des troupes sont là aux portes de la ville, en fait, cette rumeur va être interprétée non pas comme quelque chose de dissuasif, mais au contraire comme quelque chose d'offensif. Et là, le peuple de Paris va se dire « ils vont nous attaquer ». Le danger est vraiment imminent, ils vont nous attaquer. Et alors, pour des raisons que Sartre énumère, le quartier de la Bastille se sent peut-être plus menacé que les autres. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Comment les gens se regroupent ? Mais d'abord, ils descendent dans la rue, il y a des rassemblements par-ci, par-là. On se demande ce que les autres vont faire. Donc, on commence par être influencé par les autres. Hein. Qu'est-ce que les autres vont faire ? Personne ne sait très bien. Et puis, on ne sait pas comment, il y a un cri qui fuse, on ne sait pas d'où, on ne sait pas de qui, qui dit « à la Bastille », et hop, il est suivi. Alors, il y a toute une série de conditions aussi qui font qu'il est suivi. C'est parce que ce n'est pas n'importe qui, pas n'importe comment, pas à n'importe quel moment que le cri est lancé. En tout cas, là, ça marche, il est suivi, et donc tous les événements s'enchaînent. Alors, à ce moment-là, on se trouve dans un groupe qui est très particulier. Donc, c'est l'émeute, le moment révolutionnaire. Mais ce n'est pas seulement ça. Ça peut être aussi, un autre exemple qui va permettre d'aller plus loin, ça peut être aussi aller à une manifestation dont on sait qu'elle n'est pas permise, elle va être dure, il va y avoir affrontement avec la police. Donc, on sait qu'on va affronter des dangers physiques. Et on compte beaucoup, du coup, sur les autres. C'est très important, ce qui va se passer avec les autres. Est-ce qu'il va y avoir une cohésion nécessaire pour résister ? Est-ce qu'on va être fort ou, au contraire, très faible parce que minoritaire, etc. Donc, on y va avec une certaine appréhension. Et ça, c'est, je vous propose de lire le texte 4 qui exprime, en fait, ce qui se passe dans le groupe en fusion. Mais là, c'est au moment où quelqu'un rejoint la manifestation, hein, quelqu'un rejoint le rassemblement qui va faire la manifestation et il voit tous les autres qui arrivent autour de lui, on se compte, on se jauge, on mesure ses forces. Et donc, parlant de tout autre qui est aperçu, Sartre dit « il n'est, donc n'importe quel autre, il n'est par la médiation du groupe, ni l'autre, ni l'identique, mon identique. » Il n'est pas identique à moi, hein, c'est un autre individu, il est là pour la même raison, mais qui néanmoins dépend de sa propre histoire, de sa propre expérience. Il n'est pas l'autre, puisqu'il vient pour la même raison que moi, il est prêt à affronter les mêmes choses que moi. Mais il vient au groupe comme j'y viens. Il est le même que moi. Cette structure nouvelle et capitale de la réciprocité médiée se caractérise en ceci. Je me vois venir au groupe en lui. Et ce que je vois n'est que l'objectivité vécue. Donc en fait, en lui, je me vois. Hein, comme lui arrive, avec son courage et son appréhension, je me vois moi. C'est comme mon miroir. Je suis pareil. On sait que jusqu'ici, l'objectivité d'un acte apparaissait aux autres. L'objectivité de mon acte, c'est ce que je ne vois pas de moi-même. Hein. Moi, je vois l'intériorité de mon acte. Enfin, je vois, je connais, je sens, j'ai conscience de l'intériorité de mon acte. Je me sens par l'intérieur, moi. Je suis entièrement un sujet. Moi, ce que je connais, c'est ma subjectivité. Mon objectivité, c'est mon extérieur. C'est comment mes gestes, mes paroles sont reçus à l'extérieur. Ça, je ne le connais pas. Donc, c'est ça, mon objectivité. Eh bien là, mon objectivité, elle m'est montrée par l'autre. Parce que l'objectivité de l'autre, je sais que c'est la mienne. C'est la même. Donc jusqu'ici, l'objectivité d'un acte apparaissait aux autres ou se reflétait pour moi dans l'objet produit. Dans le groupe en fusion, le tiers est mon objectivité intériorisée. Je ne la saisis pas en lui comme autre, mais comme mienne. Autrement dit, dans le groupe en fusion, ça veut dire qu'en fait, chacun, sans que l'altérité soit supprimée, hein, on ne forme pas un énorme organisme géant, on est bien chacun des individus différents, mais en même temps, chacun se reconnaît totalement en l'autre, reconnaît sa praxis, reconnaît ce qu'il est en train de vivre, de ressentir, de viser. Tout ça, il reconnaît comme identique au sien. Et c'est ça qui fait la fusion. C'est ça qui fait la fusion. Donc la fusion, ce n'est pas nécessairement parce que l'événement est très violent, hein, parce que c'est un assaut violent, mais c'est parce qu'il y a un resserrement des personnes sur quelque chose de très précis, de très figé, enfin, de très focalisé et d'urgent. Il y a une urgence absolue là. On va devoir affronter ensemble le danger. Et c'est ça qui scelle vraiment les personnes. Oui, il dit aussi que cette praxis, elle totalise de plusieurs façons. Ça, c'est toujours dans son idée. Hein. Si on montre que ça totalise, on montre aussi que la raison dialectique le comprend. Puisque c'est ça, elle comprend les totalisations, la raison dialectique. Et donc, il dit qu'une praxis commune, comme le groupe en fusion, totalise plusieurs choses. D'abord, ça totalise les buts. Les buts de tout le monde sont totalisés, ça fait vraiment un tout. Comme je disais tout à l'heure, les Gilets jaunes, peut-être au départ, ils avaient une multiplicité de buts un peu différents. Ils sont totalisés. Une fois qu'ils font groupe en fusion, une fois qu'ils sont dans les émeutes, tout cela va ensemble, tout ça est uni, hein, tout ça est défendu par tous. Donc, ils totalisent le but. Ils totalisent les moyens, le groupe en fusion, puisque... les moyens disponibles sont disponibles pour tous. Quelqu'un commence à prendre des pavés, tout le monde prend des pavés, ou sont complémentaires, hein, on prend quelque chose pour se protéger, etc. Donc, tout le temps, il y a tout le temps interaction avec les autres, mais interaction positive, c'est-à-dire c'est plus une aliénation par l'autre, c'est une complémentarité, c'est le fait que les moyens sont vraiment mutualisés. Donc, les moyens sont totalisés. Et en outre, cette praxis commune, elle totalise aussi le champ pratico-inerte, le champ environnant, puisque c'est tout le groupe aussi qui se précipite plutôt par là ou par là, qui interprète les obstacles, qui interprète les possibilités de fuite, qui interprète les opportunités de s'engouffrer quelque part, d'attaquer quelque chose. Donc tout le champ d'action possible, le milieu, le lieu dans lequel on agit est aussi totalisé par le groupe. C'est aussi le groupe tout entier qui utilise l'ensemble. Donc, on peut voir comment on a totalisation à partir d'une très très forte contradiction, hein, un conflit au départ, le conflit entre ce groupe totalisé, en totalisation, et l'ennemi. Et l'ennemi qui est lui aussi totalisé. Bon, alors cette praxis de groupe en fusion, ça ne peut pas se maintenir. Ça ne peut pas se maintenir parce que c'est vraiment des moments très précis, hein, des moments d'extrême tension, et puis la tension retombe, ou bien parce que le groupe est vaincu, ou bien parce qu'il est vainqueur, parce qu'il a obtenu ce qu'il voulait, ou parce qu'il est écrasé, mais de toute façon, ça s'arrête, ça ne dure jamais très longtemps. Et quand ça s'arrête, il y a deux possibilités. Ou bien chacun retourne à sa sérialité, ou bien... ça se transforme en un autre groupe organisé et plus permanent. Alors, si chacun retourne à sa sérialité, il n'empêche que ça ne redevient pas tout à fait comme avant tout de même. Il reste quelque chose. Hein, du fait qu'il y a eu cette fusion, il reste quelque chose. Il reste la mémoire, évidemment. Il reste le projet qu'on n'a pas réussi, mais qui est toujours là, qui est toujours prêt à ressurgir par conséquent. Il reste parfois des marques aussi dans la matière, hein, des marques objectives. On a détruit cela, on a obtenu éventuellement un petit changement, etc. Donc la situation a changé de toute façon, avant et après, ce ne sera plus pareil. Mais quand même, chacun, malgré tout, retourne éventuellement à son isolement. Ou alors, immédiatement, le groupe décide de s'organiser pour assurer sa permanence. Ça, c'est évidemment le meilleur des cas. Et ça peut se faire, par exemple, si le danger est provisoirement écarté, mais est toujours, menace toujours de revenir. À ce moment-là, on commence à se distribuer des rôles pour se préparer au retour du danger. Bon, si c'est politique, on peut dire on n'a pas réussi par par l'émeute, par la révolte, mais on peut réussir par d'autres moyens, mieux préparés, et donc on va aussi se concerter pour mieux se préparer pour la prochaine fois. Donc c'est aussi faire action de groupe que de se préparer ensemble, en commun, pour faire mieux la prochaine fois. Et donc, à ce moment-là, on n'est plus dans la fusion parce qu'on ne fait plus les mêmes choses. On est dans la réflexivité et non plus dans la spontanéité. C'est-à-dire, le groupe en fusion, c'est une spontanéité. Il y en a un qui crie, ça n'était pas prévu une seconde avant. Là, oui, on est dans la réflexivité. On se dit, voilà ce que nous voulons être, voilà ce que nous sommes, voilà ce que nous avons à notre disposition, comment faisons-nous, c'est réflexif. C'est organisé parce que on ne prend pas spontanément non plus tel ou tel rôle, telle ou telle action. On décide, toi tu feras ça, etc. Et les individus qui sont ainsi assignés à une tâche et qui la font éventuellement tout seuls, ils ont une praxis individuelle, mais cette praxis individuelle, elle a pour but ultime la même que celle de tous les autres. C'est pour ça qu'elle continue à être une praxis de groupe. C'est la même que tous les autres dans cette organisation. Alors, l'exemple le plus parlant que Sartre décrit, c'est celui d'une équipe de football. Il y a toujours des exemples très, très surprenants. Mais en fait, en même temps, évidemment, c'est ce qui vient directement à l'esprit. Une équipe de football, c'est exactement ça. C'est un groupe qui a une permanence, qui est organisé, qui est réflexif, qui est préparé, qui a donné à chacun une fonction différente, un rôle différent, mais qui, en même temps, doit constamment adapter ses rôles et ses fonctions à ce qui se présente, au déroulé de l'action, et en particulier à ce que fera l'équipe adverse. Donc, il y a une partie qui est préparée et il y a toute une partie qui dépendra de l'initiative au moment même. Et cette initiative, elle sera à la fois individuelle, parce qu'il faut que chaque individu soit capable de dire, là, en présence, qu'est-ce que je fais, en présence du ballon, en présence du goal, qu'est-ce que je fais. Mais il faut aussi que, constamment, chaque individu soit en relation avec tous les autres pour guetter l'opportunité d'une passe. Est-ce qu'un autre est mieux placé que moi? Je dois, à ce moment-là, renoncer à agir moi-même et permettre que ce soit l'autre qui agisse. Et donc, je renonce, d'une certaine manière, à ma propre action, à ma propre praxis, mais c'est pour qu'un autre la réalise mieux et réalise mieux ce qui est notre objectif commun, qui est la victoire. Donc on voit bien comment c'est encore un groupe vraiment très fort, c'est une praxis commune qui respecte les praxis de tous les individus et qui est plus évidemment qu'une praxis individuelle, qui la dépasse complètement, qui tient compte de l'altérité d'une manière positive et donc où il n'y a pas d'aliénation. Alors c'est important de dire « il n'y a pas d'aliénation ». Parce que cette prise en compte des autres, elle est dans mon propre but, elle est dans mon propre intérêt. Moi, je suis un moyen pour les autres pour arriver au but, et les autres sont un moyen pour moi pour arriver au but, mais comme c'est le même, on ne s'aliène pas l'un l'autre. Comme on est concerté, on ne s'aliène pas l'un l'autre. Donc c'est vraiment du tout positif. Donc il faudrait écrire « de la société comme équipe de football », ça serait bien. Alors, aussi longtemps, dit-il, qu'il n'y a pas, évidemment, certains individus dans l'équipe qui jouent pour eux-mêmes. Alors ça, c'est ruiner l'équipe. Ça, c'est ruiner l'équipe s'il y en a un qui fait la star et qui joue pour lui-même. Ça, c'est vraiment la pratique déplorable. Alors, un élément important aussi de ce type de groupe, c'est que pour maintenir sa cohésion, parce qu'il est évidemment beaucoup plus menacé d'une dispersion des individus que le groupe en fusion, donc pour maintenir sa cohésion, il faut qu'il y ait un certain type d'engagement, et Sartre l'appelle le serment. Alors évidemment, il pense au serment du jeu de paume, puis il est toujours plongé dans la Révolution française. Ce serment n'a pas besoin d'être explicite, il n'y a pas besoin que tous les membres jurent de rester fidèles au groupe, mais il n'empêche qu'il faut toujours qu'il y ait, sous une forme ou une autre, un engagement de chacun à éviter l'altérité, c'est-à-dire à ne pas devenir soi-même autre que tous les autres, c'est-à-dire à garder l'esprit du groupe, le but du groupe, sa manière de fonctionner, etc. Il faut cet engagement, sinon le groupe n'est pas pérenne. Sinon le groupe craint beaucoup trop son éparpillement. Et d'ailleurs, il peut y arriver l'effet inverse, à savoir que si le groupe craint trop son éparpillement, Il risque de durcir le contrôle de tous par tous, il risque de durcir les conditions de l'engagement, et il risque de tomber dans une nouvelle inertie qui est une domination, en fait, de tous sur tous, et ou dans la terreur. Hein, ou dans la terreur, c'est-à-dire que, bien sûr, il faut pouvoir d'une certaine manière condamner ou blâmer celui qui lâche le groupe ou le trahit. Mais là où le durcissement devient excessif, c'est lorsque il y a une telle peur de l'individualité de chacun que le moindre signe d'originalité, hein, d'action un tout petit peu personnelle est totalement exclu et fait que ben, on va jusqu'à sacrifier la personne. Donc terreur, c'est aussi connu par des tas d'exemples. Donc voilà pour le groupe organisé, hein, qui peut résulter, qui peut surgir du groupe en fusion. Et on va lire le texte 5 qui décrit aussi ce genre de praxis. La praxis individuelle, donc dans le groupe organisé, est médiation qui se supprime, ou si l'on préfère, qui se nie au profit de son dépassement par un tiers. C'est ce que je disais avec l'histoire de la passe dans le football, c'est que celui qui se nie au profit de son dépassement par un tiers, c'est celui qui voit qu'il pourrait agir, mais qu'un autre pourrait agir encore mieux. Et donc, il se nie, lui, comme action, au profit de l'action de l'autre. Hein, donc, alors, il parle de tiers, là. Il parle de tiers parce que, et de médiation, hein, c'est le même dispositif, les tiers et les médiations, c'est que dans un groupe, chacun est un tiers entre le groupe et les autres, et chacun des autres. Donc, ça forme toujours une relation ternaire. Je me rapporte à n'importe quel autre de l'équipe par l'intermédiaire du groupe, c'est-à-dire par l'intermédiaire de notre fonction commune, de notre organisation commune. L'autre, je ne me relie pas à lui en tant qu'individu, mais en tant qu'autre membre du groupe. Vous voyez, donc l'autre membre de l'équipe avec qui je joue, peu m'importe à ce moment-là qui il est, ce qu'il fait par ailleurs. Je ne le considère qu'en tant qu'autre membre de l'équipe. Et donc, l'ensemble de l'équipe, l'équipe comme totalité, est une médiation entre moi et lui. Vous voyez, dans mon rapport à lui, ça passe par l'équipe. Ce qui compte là, c'est qu'il est aussi un membre de l'équipe. Et c'est l'équipe qui compte. Vous voyez. Donc, il y a une médiation. Il y a toujours un tiers. Alors, c'est l'équipe qui peut être le tiers ou ça peut être l'autre qui est le tiers entre moi et l'équipe. Donc, il y a toujours un tiers. Et donc, quand on se dépasse, quand on laisse un autre dépasser notre propre action, on laisse un tiers dépasser notre action au profit de l'équipe. Son but total et singulier, c'est de produire, donc de cette praxis individuelle, de chacun des joueurs, c'est de produire un certain résultat comme moyen à dépasser vers la fin commune. Donc chacun se fait moyen pour les autres. Je vais avancer suffisamment le ballon pour que quelqu'un d'autre puisse prendre le relais et que de relais en relais, on y arrive. Donc, chaque fois, hein, on se fait moyen pour les autres. Donc, il produit son acte en vue de l'objectif commun et médiatisé, donc qui passe par l'intermédiaire de l'autre, par les actes futurs des coéquipiers. Aussi, les actes futurs, on prévoit aussi, évidemment. On prévoit les mouvements qui sont possibles et on adapte son action ou sa non-action en fonction de ça. Et en indissoluble liaison avec le but à long terme, pour qu'il se dissolve au sein de l'objectivation commune. Et enfin, un autre exemple de... Donc ça, c'est... On peut trouver d'autres exemples, hein, de ce genre de groupe organisé, mais... Je vais terminer avec un autre exemple assez différent de ce type de groupe. C'est celui que Sartre trouve dans l'anthropologie structurale, donc notamment chez Lévi-Strauss. Et il fait référence aux structures élémentaires de la parenté, ouvrage important de Lévi-Strauss, en ce qu'il décrit justement, sous la notion de structure, quelque chose comme une médiation entre praxis individuelle et praxis commune. Hein, il y a quelque chose aussi là de médiation par la structure, mais c'est d'une manière très spéciale dans ces groupes humains qui sont particulièrement homogènes et particulièrement codifiés par leur structure. Donc ça fonctionne pas du tout de la même façon si vous prenez les structures de notre société. Donc le mot structure est très ambigu parce que dans l'anthropologie structurale, il veut dire quelque chose de très précis, une sorte de code, de filtre pour toutes les actions des individus. Alors que chez nous, les structures sociales, bon, ce sont des relations beaucoup plus lâches, beaucoup plus floues, moins contraignantes. Bon. Donc, le texte 6, vous allez voir, il salue vraiment l'utilité de l'étude de Lévi-Strauss. L'ouvrage de Lévi-Strauss apporte une contribution importante à l'étude de ces étranges réalités internes, à la fois organisées et organisatrices. Donc, à la fois organisées et organisatrices, c'est important. La structure d'une société, hein, donc, par exemple ici de la parenté, c'est-à-dire c'est celle qui commande qui va se marier avec qui, enfin, dans quel clan on a le droit d'aller chercher son conjoint, de quelle manière on doit se rapporter à ses différents liens familiaux, ses parents, ses grands-parents, ses oncles, ses tantes, ses cousins, ses cousines, ses enfants, les cousins plus éloignés, selon que c'est du côté maternel ou paternel. Enfin, voyez des structures comme ça qui sont toutes signifiantes dans ce genre de groupe, hein, qui sont toutes signifiantes, c'est-à-dire tout est codé. Par exemple, on a le droit d'épouser sa cousine maternelle, mais pas paternelle, enfin, ce genre de choses. Donc, tout est extrêmement codifié. Et c'est pour ça qu'il dit que c'est à la fois organisé et organisateur. On voit bien comment ça organise toutes les relations entre les membres du groupe. Et c'est aussi organisé, puisque ça a été bien décidé à un moment. Alors, on ne sait jamais comment. On ne sait jamais comment la structure a surgi, puisqu'il n'y a pas de mémoire. Le groupe n'a pas gardé la mémoire de comment s'est instituée cette structure, mais en tout cas, elle a été organisée. Alors, toujours cette même réalité, ce sont des produits synthétiques d'une totalisation pratique. Produits synthétiques d'une totalisation pratique, ben oui, c'est une totalisation de l'action de tout le groupe. Ici, en l'occurrence, de l'action, disons, généalogique, hein, comment se fait la reproduction du groupe dans le cadre familial. Et objet toujours passible d'une étude analytique et rigoureuse. Alors, n'oubliez pas, tout au début, on avait vu que la méthode dialectique s'opposait en fait à la méthode analytique. En tant que la méthode analytique, ce qu'elle fait, c'est décomposer des éléments qui sont reliés en extériorité les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire, ils n'ont pas cette structure de la praxis libre qui est moi, je me situe par rapport à, qui est la seule qui peut être étudiée par une dialectique. En fait, une analyse de type scientifique, donc hein, c'est ça que ça veut dire une méthode analytique. Elle met en relation, elle articule des objets qui n'ont pas une véritable relation interne par rapport aux autres objets. Et donc, quand ça s'applique à des humains, ça montre que les humains sont agis et n'agissent pas. Donc, quand on dit que ben, dans un certain groupe donné, tout le monde se plie à cette interdiction de certaines unions et à cette obligation d'autres unions, quand on dit que tout le monde s'y plie, ça veut dire que c'est effectivement la structure qui commande l'action des humains. La structure les commande. Et il n'y a pas une intériorisation au sens où chacun dirait ben en fait, c'est mon choix, parce que c'est ça que... Il se fait que c'est ce que veut la société, mais ça tombe bien parce que c'est ce que je veux aussi. Ça ne se pose même pas comme ça. Ça ne se pose pas comme une possibilité de se situer par rapport à elle en disant oui ou non. Ça ne se pose pas comme ça. Ça se pose comme un absolu, une évidence. Et donc c'est pour ça que on peut l'étudier analytiquement Parce que c'est exactement la même chose que si on étudiait de la matière inerte. Il n'y a pas plus de réaction intérieure et individuelle et personnalisée que si c'était de la matière inerte. C'est la même chose. Donc il y a une déshumanisation, évidemment. Enfin bon, ça fait partie des reproches qu'on peut faire à ce genre d'observation des humains. C'est qu'il y a une forme de déshumanisation, évidemment, de dire qu'ils ne font que suivre, en fait, les lignes qui sont imposées une fois pour toutes, sans pouvoir décider de rien. Bon, on va un peu nuancer quand même. Donc c'est pour ça que c'est passible d'une étude analytique et rigoureuse. Alors, toujours les mêmes structures sont aussi les lignes de force d'une pratique pour chaque individu commun et liaison fixe de cet individu au groupe à travers les changements perpétuels de l'un et de l'autre. Donc, il y a quand même des changements, mais en fait, c'est parce qu'on sait qu'il y a des changements, mais en principe, c'est parce que le groupe veut et déclare pour lui. C'est une ossature inorganique et pouvoir défini de chacun sur chacun. Alors, de chacun sur chacun, c'est très important aussi parce qu'en fait, c'est bien une structure horizontale. Il n'y a pas un chef. Il n'y a pas besoin d'un chef, en fait, quand il y a une structure comme ça. Il n'y a pas besoin d'un chef. De toute façon, tout le monde confirme pour tout le monde. Tout le monde impose à tout le monde. C'est tout le monde qui vérifie que tout le monde respecte ce qui a été imposé. Il n'y a pas besoin de commandement. La structure a tellement formé les individus qu'il n'y a pas besoin. Il n'y aura pas de désir d'exception. Enfin bon, ça c'est un peu dans l'idéal, quoi. Bref, fait et droit tout ensemble. C'est un fait, ces structures. Hein, c'est un fait que le groupe est structuré comme ça. Mais c'est en même temps le droit, c'est-à-dire c'est en même temps la norme et l'obligation. Élément mécanique, bah oui, c'est mécanique, hein, ça agit à la place de la décision, et tout à la fois expression d'une intégration vivante à la praxis unitaire, de ces tensions contradictoires, liberté et inertie, qui portent le nom de structure. La fonction comme praxis vécue apparaît dans l'examen du groupe comme objectivité, sous la forme objectivée de structure. Et nous ne comprendrons rien à l'intelligibilité de la praxis organisée tant que nous n'aurons pas posé la question de l'intelligibilité des structures. Donc ça rejoint ce qu'il nous avait dit au début, à savoir que les sciences humaines seront des disciplines auxiliaires pour la dialectique, c'est-à-dire on a besoin d'analyse de ce type-là, même analytique, hein, même scientifique, même déshumanisante, mais pour comprendre certaines choses, et puis on les intégrera dans nos propres totalisations dialectiques. Et donc, il appelle aussi ces structures la nécessité de la liberté, la nécessité au sens où c'est bien un cadre inertiel, mais qui laisse malgré tout une certaine marge à la praxis individuelle. En fait, c'est vrai, c'est pas absolu, hein, ces structures. On a quand même encore le choix à l'intérieur d'obligations ou d'interdictions, il y a quand même encore beaucoup de choix. Si on vous dit, vous pouvez pas trouver votre conjoint dans ce clan-là, ben, il reste quand même tous les autres clans, donc ça va. Bien sûr qu'il reste une marge individuelle. Donc c'est un cadre, voilà, c'est un cadre inertiel. Et une dernière observation que fait Sartre à propos du groupe organisé, c'est de montrer comment son unité est aussi formée par ceux qui ne font pas partie de ce groupe. Donc il y a tous les extérieurs à un groupe organisé. Il dit par exemple les usagers d'un certain service. Donc, en considérant qu'un service est un groupe organisé, c'est à la limite, hein, c'est très lâche, mais enfin quand même, il y a tous les usagers par rapport à lui, en fait, l'unifient comme groupe. Où il dit, on donne un autre exemple qui est un groupe plus serré, c'est celui de combattants armés, par exemple, il pense à la résistance, un groupe de combattants pour tous les autres non-combattants. Ce groupe est vraiment unifié par l'extérieur, au sens où, pour eux, tout individu est un membre de ce groupe. Tout individu est vu comme individu commun, c'est-à-dire un combattant parmi d'autres, et c'est ça qui compte, c'est ça l'essentiel, c'est que cet individu soit membre de ce groupe. Même chose pour un usager, quand il va, pas par exemple, à la poste, l'important, c'est que le postier soit là en tant que postier, et non pas en tant que tout ce qu'il est par ailleurs. Donc, il unifie, en fait, tout le service de la poste, de l'extérieur, en disant, ben, ils sont tous identiques, enfin, ils sont tous interchangeables, ils sont tous des membres de ce groupe. Donc ça, c'est vu de l'extérieur, il y a une nouvelle unification, hein, qui s'ajoute à l'unification que chacun a à l'intérieur. Et ça réintroduit la notion de médiation, parce que, en fait, le membre du groupe, la relation qu'il a avec l'usager passe par la médiation du groupe, puisque c'est parce qu'il est un employé de cette administration qu'il doit agir de cette façon avec l'usager. C'est en tant qu'il est membre de cette administration qu'il doit s'adresser de cette façon, servir de cette façon vis-à-vis de l'usager. Donc, il s'adresse à l'usager par la médiation du groupe, de nouveau. Et aussi, ce membre de l'administration, par rapport à son administration, il est aussi médié par l'usager. Parce que lui, la fonction qu'il a dans l'administration, c'est de faire quelque chose vis-à-vis des usagers. Il a par exemple la fonction d'être au guichet, la fonction d'être à la distribution, mais c'est toujours par rapport aux usagers que sa fonction est déterminée. Donc son rapport au groupe, sa fonction dans le groupe, est aussi médiée par les usagers. Donc de nouveau, on retrouve cette structure de médiation que Sartre adore, il retrouve partout. Et on peut dire aussi que pour l'usager, c'est pareil. L'usager donc s'adresse à l'individu par la médiation du groupe, puisque c'est en tant qu'il est individu de ce groupe, et s'adresse au groupe par l'intermédiaire de l'individu, de l'employé, puisque quand il a besoin d'une administration, il faut bien qu'il passe par l'un de ceux qui assurent la fonction de cette administration. Donc il y a toujours un ensemble de médiations qui unit un groupe organisé par rapport à son extérieur et à l'intérieur de lui-même. Voilà, donc jusqu'ici, on s'arrêtera là sur l'expression, la description des groupes organisés. On a vu les groupes organisés, les collectifs, les groupes en fusion. Et la semaine prochaine, ce qu'on va voir, c'est plutôt la dégradation des groupes dans des formes verticales où la souveraineté, on va introduire la notion de souveraineté, et on va voir comment la souveraineté peut être capturée, confisquée par un certain sous-groupe ou par une seule personne, comment elle peut s'incarner dans une seule personne, enfin en tout cas constituer un pouvoir séparé et une domination. Et ensuite, on enchaînera sur la manière dont les luttes peuvent être intelligibles. Donc on va revenir au moteur du conflit, le moteur de la lutte, comme ce qui aussi permet le dépassement et le changement. Voilà pour le programme.
Oui. Est-ce qu'en substituant les concepts de groupe et de collectif au concept de classe sociale, est-ce que Sartre se refuse à privilégier le prolétariat comme seul moteur de l'histoire, au sens marxiste du terme ? Est-ce qu'il permet, avec cette notion de groupe, des alliances de classe ?
Oui, alors ça, c'est une très bonne question que vous pouvez avancer parce que il ne substitue pas vraiment ces termes à ceux de classe puisqu'il utilise toujours le terme de classe et la classe est toujours quelque chose d'important. C'est un collectif, mais ce n'est pas n'importe quel collectif, la classe. Elle n'est pas déterminée de la même façon que les autres. Elle est... elle reste importante justement en tant que... Elle est vraiment au cœur du conflit, de la conflictualité de l'ensemble d'une société. Donc elle reste extrêmement importante dans ce sens-là. Et simplement, c'est une description de la classe qui l'approche un petit peu mieux que de dire que c'est un collectif sériel, la plupart du temps, mais qui peut se transformer justement en groupe organisé si elle prend conscience d'elle-même et elle fait les bonnes négations, en gros. Donc c'est pas une substitution, c'est complémentaire. Mais par ailleurs, il est tout à fait vrai que Sartre ne considère pas que le prolétariat est la seule classe révolutionnaire. C'est en ça que ça engage aussi, ça préfigure un peu la suite. C'est plutôt qu'il y a des totalisations partielles et puis il y a une totalisation totale. Au niveau de la société ou même de tout le genre humain. Et les totalisations partielles, elles peuvent se faire n'importe où. Des émeutes, elles peuvent avoir lieu pour des raisons différentes, dans des milieux différents. Elles formeront des groupes en fusion, elles formeront peut-être aussi des groupes organisés. Et tous les groupes organisés ne sont pas nécessairement des prolétaires. Mais ils sont chaque fois partiels. Et donc la grande question, ça va être comment vont-ils se réunir justement pour que une lutte locale, régionale, partielle, devienne une lutte générale et puisse changer le système tout entier. Ça va être la grande question. Et c'est ce que j'espère pouvoir montrer dans les deux séances qui restent. Mais c'est vraiment très important. C'est vraiment très important cette idée que, justement, parce que spontanément, les regroupements se font plutôt de manière locale, c'est très rare que ça se fasse à l'échelle d'une classe en une seule fois. C'est tellement énorme, c'est tellement dispersé une classe, c'est très difficile que ce soit elles toutes ensemble qui deviennent groupe organisé. Donc ça va passer nécessairement par du plus partiel. Mais après, comment est-ce que ça va se lier dans, comment ça va se totaliser dans un mouvement général? Ça va être ça l'important.
C'est quoi la position de Sartre par rapport à la pensée anarchiste, parce que la manière dont il décrit, enfin, je vais faire un contre-sens, mais la manière dont il décrit, il fait la différence entre groupe collectif et, alors je vais utiliser des mots qui ne sont pas les mêmes, une espèce d'organisation qui apparaîtrait ex nihilo sans qu'il y ait quelqu'un, un meneur, même si dans la métaphore de l'équipe de foot, il y a quand même un meneur de jeu, un capitaine. Bon. Mais ceci dit, pour moi, ça me fait penser, enfin, forcément, à quand les penseurs comme Bakounine ou autres pensent, enfin, bref, d'autres parlaient qu'il était, enfin, disaient qu'il était possible qu'il y ait une organisation sociale sans qu'il y ait, ça se fasse de manière pyramidale. Donc, qu'est-ce qu'il en a dit, ou je sais pas comment son rapport par rapport.
Ouais, c'est très drôle, hein, parce que Sartre, dans une interview assez tardive, il a dit, au fond, j'ai toujours été anarchiste. Alors c'est quand même extraordinaire qu'il dise ça, alors qu'il a tellement défendu sa position marxiste, communiste, etc. En fait, oui, Sartre, il a toujours été anarchiste. C'est effectivement le type d'organisation qui valorise le plus, c'est-à-dire une organisation horizontale. Alors, mais il l'a décrit de manière très, très, je pense, très subtile, hein, parce que oui, c'est une organisation horizontale où tout le monde tient compte de tout le monde, où on a un but commun, on se concerte pour distribuer les rôles, etc. Il n'y a pas besoin de chef. Alors, il n'y a pas besoin de chef. Il dit, en fait, c'est ça que je trouve assez subtil, c'est qu'il dit, dans un groupe en fusion, il y a des meneurs temporaires. C'est-à-dire, il y en a qui disent « tous avec moi par là !» et hop, on les suit. Mais c'est temporaire. Ça dure le temps d'un mouvement. Et puis, il y a un renversement, il se passe autre chose. Et il y en a peut-être un autre qui va dire « non, par ici » ou « faisons ça ». Et donc, en fait, il dit qu'il faut qu'il y ait des meneurs, c'est-à-dire des personnes qui impulsent, qui donnent la première impulsion du mouvement. Et puis, selon leur carrure, leur charisme, ils vont être plus ou moins suivis. Donc c'est important aussi la qualité de la personne qui mène là. C'est pas n'importe qui non plus. Il faut qu'il y ait des individus, qu'il y ait des qualités qui fassent cristalliser quelque chose. Donc, mais c'est pas des chefs. Ou du moins, c'est pas des chefs permanents. C'est des meneurs, des organisateurs, je sais plus, il y a encore un autre mot pour dire bon, que ce sont des gens qui entraînent des mouvements.
Plus de catalyseurs.
Des catalyseurs éventuellement. Mais en tout cas, justement, on va voir la semaine prochaine que dans toutes les déviations possibles du groupe organisé, il y a l'apparition d'un chef permanent. C'est précisément une déviation, c'est précisément une dégradation. C'est qu'il y a l'apparition d'un chef permanent, parce que ça change complètement les relations et pas dans le bon sens. Donc oui, c'est ça, son modèle privilégié, c'est sûr que c'est ça. Alors ce qui est curieux, c'est que... Et c'est qu'il ne se soit pas déclaré, en fait, c'est qu'il n'est pas beaucoup soutenu, enfin, il n'a jamais soutenu le mouvement anarchiste, ce qu'il opposait aussi à Camus, hein, qui était beaucoup plus explicitement en adéquation. Mais il parle beaucoup de l'anarcho-syndicalisme, en fait, Sartre. Il a beaucoup étudié l'anarcho-syndicalisme de la fin du 19e, du début du 20e. Il voit ses faiblesses, en fait. Et je pense qu'il ne s'est jamais déclaré parce qu'il a trop vu la faiblesse de ces mouvements. Il y a beaucoup de faiblesses du côté des mouvements anarchistes, hein, qu'ils soient plutôt syndicaux ou plutôt individualistes. Faiblesse à la fois théorique, mais comme toutes les théories, hein, sans doute pas plus de ce côté-là, mais il y a simplement une minorité, hein, une faiblesse de nombre. Ça a toujours été une minorité. Et alors, il y a l'attractivité de ce qui est plus nombreux. Et dans les années 50, il faut bien dire qu'il y a un creux aussi hein, pour tout ce qui est organisation anarchiste. Elles ont été très très fortes au début du XXe siècle, mais après, ça a vraiment, elles sont vraiment à ce moment-là un peu en veille, même si elles continuent. Mais... Et donc, je pense que c'est pour toute une série de raisons de ce type-là que Sartre ne s'est jamais dit explicitement qu'en fait, c'était ça son modèle. Mais en réalité, oui. Et il l'a dit tardivement. Il l'a dit tardivement parce que là, on est au début des années 70 et là, l'anarchisme, il n'est plus aussi déconsidéré. Il est plus... il correspond un peu à ces jeunes maoïstes, hein, mais qui sont de moins en moins maoïstes, qui soutiennent.
Quand on pense à une certaine masse critique, et on revient peut-être sur la dernière réflexion que vous disiez, que vous allez en parler, c'est-à-dire que la questionnement, c'est au niveau régional ou d'un quartier, oui, mais il y a une échelle au-delà de laquelle ça pose problème. Et quelque part, dans les faits, enfin, de ce que j'en sais, la pensée anarchiste, à chaque fois qu'il y a eu des collectifs, etc., il n'y a pas eu une pérennité, parce que, enfin, comme si on n'arrivait pas à dépasser un certain seuil de... Enfin, au-delà d'un certain nombre, où il y avait une difficulté à passer un cap. Quoi.
C'est ça, en fait, toute la question, c'est d'arriver à s'organiser au-delà de ce qui est en présence, donc au-delà de l'assemblée, du groupe d'action... Mais il y a des solutions hein, qui ont été pensées, des fédérations d'assemblées, etc. Enfin, les solutions, elles existent en théorie, mais il reste à les créer. Mais elles existent, oui, elles sont tout à fait possibles. Donc ça fait partie des totalisations de totalisations qu'on pourrait envisager.
J'ai une question. Pour qualifier les liens entre les membres, soit d'un collectif, soit d'un groupe, est-ce qu'on peut projeter Durkheim là-dessus, avec la solidarité organique et mécanique ?
Alors, je ne vais pas répondre directement parce que je ne connais pas assez, mais en tout cas, Sartre refuse le schème de l'organisme pour tous ses regroupements, pour tous, y compris même pour le groupe en fusion. Dit, c'est pas un super organisme. De toute façon, le schéma de l'organisme n'est pas bon. Parce que, en fait, l'organisme, il a sa fin en lui-même. Il est à lui-même son propre moyen, mais aussi sa propre fin. Alors que le groupe en fusion, il a une fin extérieure à lui. Sa fin est extérieure. Il veut obtenir quelque chose à l'extérieur. Et en plus, l'organisme n'est pas composé d'une multiplicité. Des parties, oui, mais ce n'est pas une multiplicité. Alors que dans le groupe en fusion, il y a toujours conscience de la multiplicité. La multiplicité, c'est de semblables, c'est de praxis semblables à la mienne, mais c'est quand même une multiplicité. Donc il y a une conscience différente. Et donc il lui semble que ce n'est vraiment pas une bonne idée d'avoir ce modèle de l'organisme de toute façon, dans quelque rassemblement que ce soit. Mais on va continuer la semaine prochaine. Bonne soirée. Merci.